Bonsoir, on trouve ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos invités étant chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France pour une émission en partenariat avec le journal La Croix. À l'ordre du jour ce soir, quel est le bon usage du doute? C'est la question que nous poserons à nos trois invités avec Béatrice Bougnol de La Croix. Par bien des aspects, la crise du Covid a eu des aspects expérimentaux. Confinement massif d'une population, suspension des libertés publiques, exposition des doutes des scientifiques et également des politiques. La plupart des citoyens des pays touchés par la crise du coronavirus ont dû remettre en cause le peu de connaissances qu'ils avaient des mécanismes de propagation des épidémies, pris à contre-pied qu'ils étaient par ce qui n'était pas une grippette passagère, comme on l'a dit au tout début. Cette mise à jour s'est faite rapidement en temps de crise et a peut-être eu des vertus pédagogiques pour faire comprendre comment fonctionne la science. Au programme donc, incertitude, vulgarisation scientifique, mise en scène du doute, scepticisme, voire complotisme. Et nous en débattrons avec Béatrice Bougnol. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir.
Et avec nos trois invités, Isabelle Stengers, philosophe, scientifique belge, professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir, Réactiver le science commun, lecture de Whitehead en temps de débâcle dans la collection Les empêcheurs de penser en rond. À la découverte, c'était il y a peu de temps. Elisabeth Elgan sera avec nous depuis la Suède. Elle est professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Stockholm. Et vous avez, Elisabeth Elgan, fourni un texte pour notre conversation mondiale sur le site de France Culture qui est au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Enfin, Antoine Flao, épidémiologiste, directeur de l'Institut de Santé Globale à l'Université de Genève. Et vous êtes, vous, un des derniers invités du temps du débat juste avant le confinement. Nous parlions avec vous et d'autres invités de la question de la limitation des libertés. Nous ne savions pas à ce moment-là qu'il y aurait justement le confinement. Bonsoir à vous, Isabelle Stengers. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, Elisabeth Elgan.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, Antoine Flao.
Bonsoir.
Alors, on va peut-être commencer par une question simple. Il y a eu, pendant tous ces temps de confinement, dans tous les pays, des mises en scène du doute des scientifiques, du doute des politiques qui parfois ont avoué douter, ou encore du doute des médias qui tentaient de suivre les uns et les autres et parfois mettaient de l'huile sur le feu. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela, Antoine Flao, justement de cette mise en scène avec des gens qui montaient sur les estrades devant les caméras de télévision ou devant les micros de radio et disaient « on ne sait pas très bien
». Je ne sais pas si c'était une mise en scène, je pense que quand il y a une émergence d'un nouveau virus sur la planète, on ne sait pas très bien. C'est donc une vertu, je pense, de le dire. Ça n'est pas facile. Hein. On n'attend pas du scientifique qu'il ne sache pas, puisqu'on appelle parfois les scientifiques les sachants. Et je pense qu'on attend de l'expert qu'il ait une expertise. Or, force et de constater pour lui qu'il n'a pas d'expertise du tout, au temps zéro. C'est même un des rares moments sur le plan scientifique où l'expert, qui s'auto-proclame expert au départ, puisqu'il n'y a aucun expert, que peut-être les seuls qui ont soigné les tout premiers patients, qui ont probablement la plus grande expertise à ce moment-là, mais les autres ne sont pas experts. En tout cas, quand on est loin d'Europe, on n'est pas du tout expert en janvier de ce nouveau coronavirus. C'est probablement un des seuls moments où vous avez la possibilité, en tant que scientifique, d'avoir une connaissance absolument exhaustive de toute la littérature, qui est au tout démarrage extrêmement faible, sur ce sujet-là en particulier.
Ah oui, ça n'est pas les 47 000 articles qui ont été publiés depuis, effectivement, sur la Covid, et qui ont nécessité, effectivement, beaucoup de temps pour pouvoir les comprendre. Béatrice Bougnol.
Alors justement, peut-être Isabelle Stengers, quel usage du doute en science? Qu'est-ce que nous a appris cette crise de la manière dont les scientifiques usent de ce doute dans leur approche de la connaissance?
Je pense qu'il faut d'abord dire que ce doute, et surtout cette épidémie, unit des sciences très très différentes. C'est-à-dire que, en ce qui concerne par exemple le matériel génétique propre à ce virus, on a eu des connaissances bien construites assez vite, et depuis, ça croît et embellit, et on peut pas dire qu'il y ait doute là. Par contre, le doute, c'est dans la rencontre entre le virus et le corps humain. Mm-hmm. C'est qu'est-ce qui arrive au corps humain. Et là, c'est vrai qu'on n'en savait rien. Ceci dit, quand vous parlez de mise en scène, c'est un très bon mot, parce que je crois que, comment dirais-je, tant du côté des scientifiques que du côté des politiques, ce qu'on dit, ce dont on annonce qu'on doute, eh bien, a été négocié. Par exemple, je me souviens quand on certifiait que les masques ne servaient à rien, mm-hmm. il n'y avait pas de manifestation de doute. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a négociation quant au doute. Je suis un peu... quant à l'idée que nous avons eu affaire à une grande démonstration de transparence, en l'occurrence. Mmh. En tout cas, pas dans mon pays, la Belgique, et pas en France, certainement. Mmh.
Et pourtant, Elisabeth Helgan, vous êtes avec nous depuis Stockholm, où vous enseignez l'histoire, et vous nous avez fourni un beau texte pour la Conversation mondiale, dans lequel vous réfléchissiez en tant que historienne sur les vertus du doute pour votre discipline et sur la mise en scène de ce doute par des scientifiques eux-mêmes à la télévision suédoise tous les soirs. Et vous disiez, moi j'avais confiance et j'ai confiance dans ce que disaient les scientifiques avec la voix particulière qui a été suivie par la Suède évidemment face à cette épidémie de coronavirus, parce que eh bien je les voyais, ils étaient là, et nous savons que ces scientifiques ont un pouvoir différent des politiques dans le pays qui est le nôtre, puisque c'est une agence avec des gens qui sont donc nommés par concours, qui ont la vertu d'être nommés par concours et non pas par le pouvoir politique. Et vous dites, quand ils disent quelque chose, eh bien, j'ai tendance à les croire.
Oui, absolument. Absolument. Et c'est vrai que je ne parlerai pas non plus d'une mise en scène du doute de la part de ces chercheurs. Ça m'a beaucoup rassurée. Quand ils disent « on ne sait pas, on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas beaucoup d'études, tout ce qu'on avait au départ, c'était quelques études chinoises et puis des conversations téléphoniques avec nos collègues italiens pour pouvoir un peu préparer le secteur hospitalier », ça me rassure beaucoup, parce que le doute est quand même le moteur de la recherche, mm-hmm. de vouloir toujours aller plus loin, de jamais penser qu'on a la vérité et puis on s'arrête là. Donc, le gouvernement suédois a laissé ses chercheurs fonctionnaires gérer la crise du corona, en fait, et a seulement pris des mesures économiques, surtout, et puis quelques mesures que demandait cette agence, notamment l'interdiction de se réunir à plus que 50. Il a fallu une loi pour ça, mais tout le reste a été de recommandations. Et ce discours qui revenait sans arrêt, nous ne savons pas, nous essayons de savoir, nous essayons de suivre ce que se passe, mais nous avons très peu de données. Je trouve ça très rassurant, je dois dire. C'est comme ça que marche la recherche pour moi.
Oui. Et donc c'est un doute positif, pourrait-on dire, un doute bénéfique, dont vous pensez qu'il est bénéfique justement pour faire...
Moi je dirais que ça l'est, oui, ça l'est, parce que en plus ces chercheurs qu'on voyait à la télé, donc tous les jours, ils avaient en plus la mission de prendre des mesures, alors qu'ils avaient très peu de données sur lesquelles se baser. Donc ça, c'est pour un chercheur, généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Mmh. Et ça a déjà été dit dans l'émission. Mmh. On a plus de temps, on peut se préparer, on peut faire le temps, le choix des méthodes, des données, des théories, etc. Là, c'est pas le cas. Donc, cette injonction d'agir sans avoir des certitudes, moi, je suis admirative devant ce courage.
Béatrice Bougnol.
Oui, Antoine Flahault, le doute moteur de la recherche dont vient parler Elisabeth Helgan, c'est ça que la population, en fait les différents peuples confrontés au coronavirus ont eu devant les yeux. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu, avec cette crise sanitaire, une vulgarisation scientifique à large échelle, quelque part?
Oui, je pense qu'il y a eu vraiment une marche qui a été gravie tant par les médias que par les politiques et par l'ensemble des citoyens sur cette crise, en termes de, je dirais, de meilleure compréhension de ce qu'est la science, de ce qu'est la façon dont la science avance. Alors, les gens ont été parfois un peu déroutés
On l'a tous été à un moment ou à un autre pendant cette crise, évidemment, faut le reconnaître.
Oui, mais ils ont été déroutés de voir les sachants qui ne savaient pas tant que ça. Ils ont été déroutés de voir les experts qui se contredisaient. Ils ont été déroutés de voir que des gens apparemment de bonne foi, même s'il y a eu des manipulations, même s'il y a eu des agendas cachés, même si je suis assez d'accord que sur le plan de, par exemple, du discours sur les masques, il y a eu une sorte de complaisance intellectuelle vis-à-vis de la pénurie et de la justification de la pénurie. Il y a eu des choses comme ça, mais dans le fond, le plus souvent, il y a plutôt de la bonne foi des uns et des autres qui avancent des hypothèses et qui voient ces hypothèses parfois, je dirais, contredites par les observations qui arrivent. C'était le cas, par exemple, pour les enfants. On a tous été pour la fermeture des écoles au démarrage, et puis après, on s'est aperçu petit à petit que les enfants jouaient un rôle de moins en moins important dans la transmission, et c'était heureux, mais on ne voulait pas parier sur des choses comme ça. La santé des enfants, elle était évidemment extrêmement importante, donc il valait mieux prendre ces précautions, mais quelque part, on a vu donc nos propres hypothèses balayées. Et si certains ont pu être un petit peu, dérangés par le fait de voir la science en toute transparence presque s'opérer sous nos yeux, je pense que ça a été en réalité extrêmement bénéfique pour la société, cet aspect-là. Et je trouve en particulier que la couverture par les médias, je parle des médias grand public, des médias y compris d'information, etc. Mais le souci de vouloir mieux expliquer, mieux comprendre, parfois de ne pas éviter, je dirais, les pistes noires que sont certaines équations scientifiques compliquées, etc., mais de rentrer dans le sujet, en modélisation mathématique, c'était des concepts assez complexes et assez difficiles. Il y a le nombre de médias grand public qui savent vous parler du R, taux de reproduction de base, qui est de la théorie mathématique des épidémies. Je trouve que c'est quand même assez intéressant, et certainement, il faut faire attention à cela, certainement il y a des gens qui ont dû être un peu laissé sur le bord du chemin en cours et en cours de route, mais je pense quand même que la moyenne générale, le niveau général a été tiré vers le haut au cours de cette pandémie pour le moment.
Isabelle Stengers, vous qui travaillez depuis si longtemps sur la question de l'incertitude et en particulier l'incertitude scientifique, est-ce que vous pensez, par exemple, c'est ce que vous expliquez dans votre dernier livre Réactiver le sens commun, que ce fossé de ceux qui savent vis-à-vis de ceux qui ne savent pas a été comblé ou creusé par la crise du coronavirus? Est-ce que vous pensez que cela change votre vision, comme beaucoup de scientifiques se sont trouvés un peu bouleversés par leurs théories qui se trouvaient contredites quelquefois par le réel de l'épidémie?
Disons que ce fossé a été mis à l'épreuve, ça c'est certain. On n'en sort pas maintenant comme on y est entré, surtout les scientifiques. Mais c'est beaucoup aussi c'est pas la vertu des scientifiques, c'est la vertu bizarre de ce virus qui décontenance énormément de choses. Je veux dire, il est plein de surprises. Donc, effectivement, ce virus nous a appris des choses, je crois. Mais par contre, je crois que le cas de la Suède et celui de la France est tout de même différent. Mmh. Il y a une tradition démocratique en Suède qui n'est pas cultivée en France, qui le sera peut-être un jour, mais on n'a pas véritablement partagé avec les gens les doutes et ce qui en suivait.
On a quand même eu un Premier ministre qui osait dire dans le deuxième temps de l'épidémie, il faut dire que nous ne savons pas en tant qu'homme politique, c'était assez rare d'entendre un homme politique le dire. Ça n'était pas le cas du président de la République au tout début, mais ensuite, oui.
On expose ses doutes, on ne les partage pas.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'on ne traite pas ceux qui vous écoutent comme des partenaires, comme des gens qui peuvent faire une différence. On leur impose un confinement avec des flics à tous les coins de rue. Je ne crois pas que c'était le cas en Suède. Et je crois que si on a eu confiance, c'est parce que ce n'était pas le cas en Suède. La Suède est un pays qui traite ses citoyens comme des adultes. La France, pas encore. Elle va devoir apprendre.
Béatrice Bougnol.
Oui, justement, on peut se demander le lien qu'il y aurait entre le fait de partager les doutes, comme vous venez de le souligner, Isabelle Stengers, et le fait de pouvoir lutter dans le même temps contre les fake news, le complotisme qui peut être finalement un peu l'envers du doute. Elisabeth Elgan, puisqu'on parlait de la Suède, est-ce que vous partageriez cette idée que le doute peut être une arme contre les fake news et le complotisme à partir du moment où il est partagé?
Je pense que les gens qui veulent mettre en question les conclusions de la recherche, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine, peuvent toujours le faire, hein, la théorie de conspiration, etc. Il y a un opportunisme du doute, de profiter du doute qu'avance la recherche. On l'a vu de la manière dont on a traité la crise du climat, ou le fait que les scientifiques ne parlaient pas d'une seule voix, et bien avec beaucoup d'assurance. Pendant 20 ans, on a un petit peu dit, voilà, c'est des rapports scientifiques différents, contradictoires, et on a fait comme si rien n'était. Le doute, oui, le doute peut être utilisé, manipulé, instrumentalisé, absolument. En même temps, c'est pas une raison pour être affirmatif. On peut pas enjoliver les choses pour éviter ces théories de cette résistance au savoir.
Oui, il faut dire que en France, par exemple, au 11 mai, un sondage disait que un tiers des Français croyaient au complot sur la nocivité des vaccins, que un quart pensait que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire et 40% dans un certain domaine politique. Antoine Flahaut, c'est vrai que quand on prend ce cas de la Suède, vous qui avez fait beaucoup de comparatismes à propos de cette, puisque votre institut de santé globale réfléchit à ces questions-là en comparant les pays, eh bien, il y a tout de même eu ce que disait l'Imperial College de Londres. Il y aura, par exemple, pour la Suède, s'il n'y a pas de confinement plus strict, il y aurait 70 000 morts. Et au bout du compte, eh bien, on en est bien loin de ces 70 000 morts. Et évidemment, le public qui n'est pas au courant se dit, mais pourquoi on a prévu d'un côté 70 000 morts et pourquoi ensuite il y en a moins de 5 000 ?
Oui, alors je pense que pour la Suède, il y a eu un discours très caricatural, mais encore une fois, qui vient plutôt des scientifiques. C'est-à-dire que les épidémiologistes ont été très divisés à propos de la Suède et d'une façon très inhabituel. Vous savez, la Suède, c'est un des pays qui a une des traditions de santé publique les plus élevées, les plus partagées dans le monde. Il y a extrêmement peu de nations qui ont une telle culture véritablement de la prévention, de la santé publique. Donc la parole venant des Suédois n'aurait jamais dû être caricaturée à ce point parce que ça n'était pas une volonté de jouer, de parier sur l'immunité grégaire. Ça n'a jamais été cela. Ça n'a même pas été une volonté de ne pas confiner le pays. En réalité, il y a eu un autoconfinement justement parce que on a fait confiance simplement, mais de façon naturelle,
aux citoyens.
On a fait confiance aux citoyens, à la participation du citoyen. Et je sais qu'il y a beaucoup de commerces qui n'étaient pas par la loi interdit d'être ouvert, mais qui ont fermé simplement parce qu'il n'y avait pas de clients. Je pense qu'Elisabeth Elgan pourra nous en dire plus, évidemment, là-dessus, mais je crois que les bars et les restaurants fonctionnaient à 25 ou à 50%, mais le gouvernement disait qu'il vaut mieux pour la vie économique avoir 25 ou 50% que zéro. Et les gens l'ont compris. Alors, ce qui se passe, c'est que la Suède enregistre certes pas ces scénarios catastrophes qui ont été avancés par l'Imperial College dont vous venez de parler, mais a quand même des
taux de mortalité qui sont plus élevés que les voisins en tous les cas.
Qui sont très 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 élevés fait. Et quelque part il y a une réflexion que la Suède va certainement conduire et qui montre que on n'a pas toutes les clés des solutions à apporter. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a vu, y compris mon collègue Téniel, douter à un moment, ce qui est normal et ce qui est sain, en fait. Hein, dire je ne suis pas totalement sûr qu'on ait pris toutes les bonnes décisions au bon moment. Et je pense que c'est terrible, hein, parce que, comme il a été rappelé tout à l'heure, ces épidémiologistes-là, à la différence de gens comme moi, ils avaient les clés. Ouais. Et oui, à actionner. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient responsables devant leur peuple, sans en être les élus d'ailleurs. Mmh. Donc c'est une position pas très confortable pour un scientifique.
Béatrice Bougnol.
Oui, justement, on a pu expérimenter aussi pendant cette crise, et notamment en France récemment avec le comité scientifique et ses différents scénarios pour la phase de déconfinement, on a pu expérimenter. Donc en fait, on pouvait prévoir des scénarios, même si on ne connaissait pas tout, et loin de là, les scientifiques ont établi différents scénarios à chaque fois, et les politiques ont pu décider à partir de ces scénarios. Est-ce que la manière dont on peut prévoir quand on a autant de doutes passe forcément par l'établissement de différents scénarios, comme encore une fois on a pu le voir récemment.
Antoine Flahaut, brièvement, et Isabelle Stenger, si vous voulez réagir aussi. Antoine Flahaut.
Alors, en tout cas, c'est une très bonne façon de présenter les résultats des modèles mathématiques dans le futur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas prévoir. Donc, on n'est pas capable de dire il y aura tant de milliers de morts, il y aura telle évolution, il y aura une nouvelle vague à tel moment. En revanche, ces modèles simulent des scénarios, et ces scénarios peuvent être extrêmement utiles pour se préparer. Mmh. C'est très utile de savoir que le confinement ou le port du masque permet de réduire la transmission de tel pourcentage. Ça donne des tendances très utiles. C'est très utile de voir que la force de freinage saisonnier sur le virus pourrait permettre un répit estival, etc. Donc ces scénarios sont très utiles, mais il faut les mettre tous sur la table, et il faut savoir que malgré tout, la compréhension, en particulier par les journalistes, de ces scénarios, est souvent aussi, d'ailleurs, de certains scientifiques, et parfois avec des agendas un peu cachés, peut conduire à transformer la notion de scénario en une notion de prédiction. Ah oui. Et on arrête de dire c'est un scénario le pire pour ce pays, et on dit il y aura 70 000 morts en Suède au mois de juin, et on se trompe fort heureusement.
Isabelle Stengers.
Je crois que je suis tout à fait dans le scénario. C'est une espèce de mise en histoire possible, et ça demande une culture du possible et pas une culture de la certitude et de ceux qui savent et qui nous disent quoi faire. Et je crois que c'est une tradition c'est ce que j'appellerais du partage actif, raconter des histoires. Je crois qu'il y a toute une culture qui pourrait démarrer, mais qui est encore nettement déficitaire. Et quand on nous parle, par exemple, de vaccins comme ceux qui viendront nous sauver brutalement, on ne nous dit pas non plus les différents scénarios qui font que ces vaccins seront sûrs. Donc il y a vraiment une grosse pente à remonter. C'est peut-être un premier pas, mais les journalistes sont aussi tout à fait en cause, parce que la manière dont ils reprennent les énoncés sur la méthode scientifique, comme s'il y avait une méthode qui unissait toutes les sciences, alors que justement, ici, pour l'épidémie, c'est des histoires, c'est des possibilités. Et c'est pas du tout une méthode qui serait la même que les sciences expérimentales. Sans parler des fameux tests cliniques qu'on nous proposait avec certitude pour une semaine après le problème et qui sont encore en cours maintenant avec tous les bidouillages dont on a entendu parler. Donc les journalistes ont souvent répercuté sous forme de certitude ce qui aurait dû être vraiment modélisé et dit avec précaution. J'ai toujours...
Allez-y.
Vous savez, mon grand espoir, c'est que les journalistes qui s'occupent de science aient la même lucidité et le même appétit que les journalistes sportifs.
On en a ici un en particulier, la personne de Nicolas Martin, qui a suivi justement ces radiographies du coronavirus en prenant en compte justement tout ce qui s'est passé de retournement potentiel à la fois de la discipline et de ce que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas justement autour de cette question-là. Et il a été présent sur l'antenne pendant toute la durée de cette crise. Vous écoutez le temps du débat, Covid, quel est le bon usage du doute, avec nos trois invités, Isabelle Stengers, que vous venez d'entendre, Elisabeth Elgan depuis Stockholm et Antoine Flau.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens.
J'aime les gens qui doutent, d'Anne Sylvestre, très belle chanson, reprise d'ailleurs par les jeunes gardes de la chanson française, par beaucoup de chanteurs d'aujourd'hui qui trouvent cette chanson très importante à reprendre. On est dans le temps du débat, on écoute cette question de quel est le bon usage du doute. Nous sommes avec vous, Elisabeth Elgan, vous êtes à Stockholm. On sait aujourd'hui, par exemple, que les historiens aiment bien, et vous êtes historienne, aiment bien dire, écoutez, il y a des résultats, certes, on peut dire qu'un fait s'est passé, mais il est très important de comprendre le processus qui a conduit au fait. Est-ce que vous pensez justement qu'un moment d'histoire comme celui que nous avons vécu collectivement, eh bien, nous montre justement cela, c'est-à-dire ce processus, ces hésitations, cette possibilité d'aller dans un sens et puis ensuite de revenir dans un autre avant le résultat final, c'est-à-dire peut-être la fin un jour de cette épidémie ou sa résurgence?
Non, je ne suis pas sûre. Pas du tout. Voilà. Je pense que nos sociétés traversent des crises différentes, des crises pour lesquelles on est des fois beaucoup mieux préparé. Je ne suis pas sûre que cette crise est quelque chose d'unique. Je pense que si on regarde historiquement, dès les crises passées, les sociétés reviennent généralement à ce qu'il y avait avant, avec beaucoup de frénésie. Mais par contre, on peut voir que nous sommes tous, pas seulement les scientifiques, dans le doute en ce moment, et que c'est assez éprouvant pour tout le monde.
Oui.
Ça peut être comparé avec ceux qui ont vécu la guerre ou des guerres. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, on ne sait pas comment ça va évoluer, etc. On ne peut pas dire nos 2 ans sera fini, ou à Noël les soldats seront de retour, comme
bien
on
sûr.
A dit en 1914. D'éprouver cette insécurité, ça c'est pas quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est propre aux crises. Tout d'un coup, il y a une sorte de solidarité qui se développe autour de ce fait que nous ne savons pas. Mais je ne dirais pas que ça change la trajectoire des sociétés d'une manière...
radicale.
Exactement. Merci.
Béatrice Bougnol.
Oui, sans penser que ça va changer effectivement la trajectoire de la société, comme vous venez de le dire, Elisabeth Elgan. peut-être que effectivement c'est le temps est, actuel et celui de des leçons un peu à tirer de cette crise, et notamment si on reparle du doute scientifique, on a été aussi témoin de des controverses scientifiques et des erreurs scientifiques, avec notamment cette crise autour de la revue The Lancet. Est-ce que Antoine Flao, qu'est-ce que nous a appris pour le coup cette crise autour de la revue scientifique The Lancet, et qu'est-ce que quelle réforme, quelle éthique peut-être pour les revues scientifiques se dégage de cette expérience?
Alors, c'était, oui, assez désastreux, cette histoire de cet article du Lancet, très triste aussi, parce que finalement, on est tous à la recherche de traitements, donc le fait d'avoir une sorte d'opprobre jetée sur une revue dans son ensemble, qui est une des revues qui est la plus respectée parmi les chercheurs et les médecins en particulier. C'était vraiment, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est marquant. Hein. Alors, il se trouve qu'en plus, c'était un article particulièrement attendu sur un sujet très très polémique et très,
la chloroquine,
voilà, la chloroquine très très politique également, puisque plusieurs chefs d'État s'en sont emparés, enfin, donc voilà. Alors, est-ce que ça apporte qu'est-ce que ça peut dire? Je pense que ce genre de choses survient presque inéluctablement dans des périodes où il y a un tel afflux de papiers, de manuscrits qui arrivent chez l'éditeur de ces revues.
Oui, il faut rappeler qu'il y a 47 000 articles au moins qui ont été publiés sur le sujet et qu'il n'y a pas tant d'experts Covid pour le lire. Comment est-ce qu'ils auraient pu relire ces 47 000 articles en aussi peu de temps? C'est ce que dit par exemple Ivan Oransky du site Retractation Watch. Il dit voilà, c'est pas possible. On ne peut pas lire autant de choses.
Oui, et puis, bon, voilà, et je pense que voilà, d'abord, comme on l'a dit, finalement, les experts sont tous très récents sur le sujet, donc ensuite, il faut qu'ils aient du temps, très souvent, ils sont pressés, les revues veulent, il y a une très forte une pression pour que le reviewing, c'est-à-dire la relecture de ces articles, se fasse rapidement, et vous êtes face à un gros papier qui semble tenir la route avec des équipes que vous ne connaissez pas parce que personne ne connaît tout le monde et encore moins dans un sujet qui est nouveau. Donc voilà, il se trouve que moi j'ai des amis qui m'ont dit très très rapidement avant même que sorte la controverse elle-même, hein, me dit mais c'est pas possible. Nous-mêmes, on a d'excellentes entrées en Afrique, dans plusieurs pays, etc. Et on n'arrive pas à avoir 15 ou 20 000 dossiers de ces patients en Covid. Et comment ces trois personnes d'une société complètement inconnue ont réussi à avoir près de 100 000 dossiers? Ça leur paraissait impossible qu'il y ait un tel partage de données. C'est difficile, le partage de données. Ça s'établit dans la confiance depuis longtemps, etc. Donc il y avait des signaux qui n'ont pas été vus. Et certainement, le Lancet doit beaucoup s'en mordre les doigts. Mais je pense que c'est aussi... Il ne faut pas non plus surdramatiser l'événement.
Non,
je
mais pense ça, que ça peut jouer justement sur cette question du doute vis-à-vis des scientifiques, des publications scientifiques, etc. Ça peut avoir un impact justement sur une sorte de rétractation de ce passage de ce doute bienveillant ou bienfaisant, bénéfique, comme le disait tout à l'heure Elisabeth Elgan, vers un doute qui conduit vers la mise en doute de toutes les publications scientifiques. Ça peut arriver, ça aussi, Antoine Flao. Très brièvement, je vais donner la parole ensuite à Isabelle Stengers.
Oui, mais je pense que le système de relecture par les pairs est un système très particulier, très original, très très lié à la science. Les scientifiques, c'est pas comme les éditeurs de romans ou d'essais. On ne soumet pas chez un éditeur un livre dont on ne sait pas très bien qui et quel va être le processus de relecture. C'est nous-mêmes qui relisons les manuscrits de nos collègues avec le plus de bonne foi possible, le moins de conflits d'intérêts, etc. Mais malgré tout, on est tous des femmes et des hommes qui qui avons nos faiblesses, qui avons nos limites. Et je pense que c'est pas une remise en question profonde du système que ça doit entraîner. C'est simplement que c'est pas étonnant, en réalité, avec la pression, avec le nombre de manuscrits, avec le, avec la visibilité de qu'arrive ce type de mésaventure. C'est très dommageable, mais c'est pas très grave non plus.
Oui, d'ailleurs, on peut écouter l'émission qui nous a précédé de la méthode scientifique de Nicolas Martin sur cette question de la querelle autour du Lancet. Isabelle Stengers, est-ce que la solution, ça serait un partage plus équitable des données scientifiques, une science plus ouverte, des données qui seraient ouvertes, qui permettraient aux citoyens de partager la discussion à un niveau plus élevé, peut-être avec les décideurs politiques ou scientifiques?
Mais vous savez, dans le cas, par exemple, du sida, des collectifs intéressés, concernés, se sont mis en place et sont profondément intervenus dans la méthodologie de ce type de test clinique tenu au nom de la science et l'ont amélioré. Ici, évidemment, il n'y avait pas le temps, mais justement, le fait que les tests cliniques aient été pris comme la voie de la science, ce qu'on attendait, ce dont devrait tomber le verdict, est en soi quelque chose de profondément malsain. Parce que un épidémiologiste peut parler des articles qu'il connaît et où les modèles sont confrontés, mais il n'y a pas de modèle en test clinique. Ce sont des statistiques, rendues complètement aveugles à leur contexte, aveugles aussi à tout ce dont on sait que ça intervient dans une guérison, c'est-à-dire la confiance. Ce sont donc des choses qui, des tests qui sont utiles parfois, essentiels parfois, mais qui ne sont pas un verdict général qui mettrait la biomédecine sous le signe de la preuve scientifique. C'est ce qu'on fait pour avoir ce qui ressemble à une preuve. Et évidemment, c'est ouvert à beaucoup de bidouillages. Je veux dire, les tests cliniques sont un des endroits les plus compliqués parce qu'ils sont faits par des gens intéressés aux résultats, ce qui est une situation malsaine dans toutes les controverses scientifiques. Donc, je crois qu'il faut vraiment se souvenir de la diversité des sciences et du fait que ce qu'on appelle preuve dans un champ serait rejeté comme idiot dans un autre.
Et donc, avec une crise comme celle-ci, c'est ce que vous disiez au tout début, Isabelle Stengers, eh bien, elle unit des sciences très différentes avec des méthodes qui sont très différentes les unes des autres. Béatrice Bougnol, pour conclure.
Oui, peut-être pour conclure justement, Isabelle Stengers, dans le texte que vous avez eu l'amabilité de donner à La Croix ce matin, vous parlez de la nécessité d'avoir plus de lucidité pour obtenir une science qui pourrait devenir plus fiable, dites-vous. Est-ce que vous pouvez pour finir, développer cette question de la lucidité?
Justement, s'il y a une culture publique et acceptée par les scientifiques, une culture de ce qu'on peut demander à une science dans telle circonstance et ce qui serait la pousser au crime de lui demander plus qu'elle ne peut donner dans d'autres circonstances, qu'on aura quelque chose de fiable. C'est-à-dire que les scientifiques pourront dire « on fait de notre mieux, mais voilà ce à quoi nous nous heurtons. Notre science ne permet pas la preuve ».
Merci à tous les trois, à toutes les trois. Merci à vous Isabelle Stengers. Je rappelle que votre dernier livre à la découverte dans la collection Les Empêcheurs de penser en rond s'intitule Réactiver le sens commun, lecture de Whitehead en temps de débat. Merci à vous Elisabeth Elgand d'avoir été avec nous depuis Stockholm. Je rappelle que vous avez confié un texte à l'équipe du Temps du Débat dans la conversation mondiale, un texte fort intéressant qui était au cœur de notre discussion aujourd'hui. Et puis pour vous Antoine Flao, merci également. Et je rappelle que Les Idées Claires, le podcast donc justement de Nicolas Martin, son dernier épisode en date s'intitule « L'épidémie de Covid-19 est-elle terminée ?» et que vous êtes effectivement au cœur de ce même podcast des Idées Claires. Merci à tous les trois. Et merci évidemment à vous, Béatrice Bougnol, et on peut se reporter aux articles de La Croix, la page débat d'aujourd'hui, où Isabelle Stengers, Elisabeth Elgand et également Antoine Flao sont présents comme ils l'étaient à l'antenne. Merci donc à toute l'équipe du Temps du Débat, Chloé Cambrelin, Manon Pris, Stéphanie Richer, Rémi Baye et Hugo Boursier. Nicolas Delmas était avec nous à la technique aujourd'hui, Olivier Bétard à la réalisation. Et si vous voulez lire justement les conversations mondiales, le dernière conversation mondiale publiée aujourd'hui, c'est celle de la caricaturiste Willis From Tunis, qu'elle commente donc depuis justement cette vision de la crise du coronavirus en matière politique. C'est une caricature extrêmement intéressante qu'elle commente sur le site de France Culture.